Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite pour essayer de parfaire notre culture scientifique et d'en apprendre un petit peu plus sur les dernières découvertes scientifiques. Aujourd'hui, on va faire une émission peut-être un petit peu plus orientée sur les animaux. On n'en parle pas souvent et pourtant il y a pas mal de choses qu'on en apprend sur eux. Et donc, on va faire une petite thématique assez générale sur les animaux pour cette émission d'une heure. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM. Pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme et graphite.net, bien évidemment, sur Internet. Pour ceux qui nous écoutent en direct pendant la diffusion de cette émission ou en différé grâce au podcast, bien sûr, de l'ensemble des émissions de Graphite. Donc n'hésitez pas et vous pouvez bien sûr suivre l'actualité de Graphite sur Instagram et sur Facebook, bien sûr, pour être informé de l'actualité de l'ensemble des émissions de Graphite. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril. Peu d'actualité dans l'éphéméride. Il y a deux informations qui datent d'il y a deux ans, donc c'est assez récent. On se souvient, il y a deux ans, le 10 avril 2019, de cette première photo d'un trou noir qui avait été publiée par un consortium scientifique international. La première photo d'un trou noir, c'était assez fascinant. Alors, c'était bon, hein. Trou noir pas facile à prendre en photo bien sûr, mais en tout cas c'était quelque chose d'assez novateur évidemment. Et aux Philippines, le même jour, il y avait l'annonce de la découverte d'une nouvelle espèce fossile d'hominidée qui était baptisée Homo lunonensis. C'est dans la grotte de Calao et aux Philippines, donc une nouvelle espèce qui avait été découverte en tant que fossile. Ces deux informations assez importantes étaient tombées le même jour, le 10 avril 2019, et on en avait parlé, bien sûr, dans cette émission il y a deux ans. Naissance, le 10 avril 1707 de Sir John Pringle, médecin écossais. On lui doit un travail de pionnier en médecine militaire, en particulier sur ce qui a trait à la salubrité et à l'asepsie. Il a une place dans l'histoire de l'humanisation des lois de la guerre. Sir John Pringle, né donc le 10 avril 1707. Au niveau des décès, le décès d'Auguste Lumière, mort le 10 avril 1954 à Lyon. Auguste Lumière, avec Louis Lumière, souvent désigné par l'expression des frères Lumière. Ce sont bien sûr deux ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie. Et donc Auguste Lumière est décédé le 10 avril 1954. Voilà pour l'éphéméride. On va donc s'intéresser aux animaux et aussi un peu à l'homme et du lien entre les deux. Les premiers individus du genre de l'homme, justement, sont apparus sur Terre il y a environ 2 500 000 ans et à une époque où le poids moyen des animaux tournait autour de 450 grammes. Mais durant l'époque géologique qui va précéder la nôtre et jusqu'à l'apparition de l'agriculture, eh bien la taille moyenne des animaux elle a chuté de 90%. Il y a des chercheurs de l'université de Tel Aviv en Israël qui relie aujourd'hui ce phénomène au développement du cerveau humain. Il suggère en effet que les grandes proies étaient plus faciles à chasser et qu'elles ne nécessitaient pas le recours à des outils élaborés, qu'elles étaient par ailleurs les plus riches en graisse et représentaient donc une source d'énergie importante. Mais lorsqu'elles ont commencé à se faire plus rares, eh bien les humains et leur cerveau ont dû s'adapter à la chasse de proies plus petites et plus rapides. Alors, rappelons que les chercheurs avaient noté certains changements physiologiques, culturels, comportementaux datant de cette époque, et donc un développement important du cerveau humain et une adaptation des bras, des épaules au lancer par exemple, à l'utilisation du feu, la multiplication d'outils en pierre assez sophistiqués, l'arc, la flèche. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune théorie unifiée qui n'avait permis de les expliquer. Eh bien, les chercheurs donc de cette université de Tel Aviv, avec la disparition des grandes proies, expliquent que les humains ont dû se montrer plus rusés, plus audacieux, donc plus intelligents, et d'utiliser des outils plus sophistiqués, de prendre des décisions plus rapides aussi. Bref, d'essayer de développer une connaissance poussée du comportement animal, un langage qui permet d'échanger sur la question, le tout pour chasser des animaux plus petits et plus vifs. Et donc, tout ça aurait procédé à l'augmentation du volume de leur cerveau pour qu'ils soient en capacité d'être justement plus inventifs. Et les humains, ils ont ensuite domestiqué le chien pour pouvoir les aider à chasser d'une façon encore plus efficacement jusqu'à ce que les mêmes proies plus petites viennent à manquer. Et donc, les humains, ils se tournent finalement vers l'agriculture, vers la domestication des animaux, mais des plantes également. Et à ce moment-là, on se rend compte que la taille du cerveau humain, elle a légèrement diminué en conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme s'est dit « c'est pas la peine que je sois ingénieux pour essayer de me nourrir, suffit que je plante des choses et que je puisse cultiver tout ça, ça me suffit ». À partir de là, il y a, entre guillemets, une certaine paresse intellectuelle, bien évidemment, hein, tout est relatif dans ses propos, mais en tout cas, ça explique un petit peu l'évolution du volume du cerveau humain. Partout où des humains sont apparus, ils se sont attaqués aux grands animaux, et tôt ou tard, ces derniers se sont éteints, et certains de nos cousins ont disparu avec eux, comme Néandertal, mais Homo sapiens a pu s'adapter et se tourner finalement vers l'agriculture. C'est ce qu'explique Ran Barkay, qui est chercheur donc à l'université de Tel Aviv, dans un communiqué qui explique donc que ce cerveau humain s'est développé à la suite de l'extinction des grands animaux. C'est assez intéressant parce que voilà, ça apporte là encore une illustration, une preuve supplémentaire de l'évolution de l'homme et de l'adaptation également, et donc sous un angle un peu inédit qui est l'angle du volume du cerveau qui aurait évolué en conséquence, évidemment. C'est ça qui est intéressant. Autre information, là on va parler des animaux, mais des animaux qu'on ne parle pas beaucoup, notamment les seiches. C'est vrai que les seiches, c'est quand même pas dans cette émission un sujet qu'on évoque souvent, et pourtant il y a un article assez intéressant qui explique que les seiches sont capables d'attendre 50 secondes, voire même 2 minutes, ce qui est long, pour obtenir un meilleur repas, au lieu de succomber à la tentation d'avaler une nourriture qui est disponible immédiatement. C'est une étude qui a été publiée il y a quelques jours dans la revue scientifique britannique Proceedings of the Royal Society. Jusqu'à présent, seuls les chimpanzés, les corbeaux et les perroquets étaient capables de réussir l'épreuve du marshmallow qui était inventée au départ pour de jeunes enfants. Cette épreuve de marshmallow, à chaque fois que j'en parle, je pense souvent à PJ qui, lorsqu'il participait avec moi à l'animation de cette émission et lors de sa première participation, avait évoqué ce test du marshmallow. L'idée, c'était de tester la capacité à se retenir pour prendre une récompense plus importante. C'est-à-dire que vous mettez un marshmallow aux enfants et vous leur dites « si tu as, toi, tu peux le manger tout de suite. Si tu attends, tu en auras un deuxième. » Et donc, c'était intéressant de voir l'attitude des enfants. Et certains pouvaient être ingénieux, d'autres n'étaient pas patients, d'autres étaient beaucoup plus patients parce qu'ils avaient compris qu'ils pouvaient attendre, ils pouvaient résister à la tentation et avoir une récompense plus importante. Eh bien, les seiches, c'est pareil. Là, on remplace le marshmallow par un petit mollusque et on leur fait comprendre qu'ils obtiendront une meilleure récompense un peu plus tard. Et en faisant passer cette épreuve à 6 seiches adultes, qui n'est pas facile à dire, 6 seiches adultes, les scientifiques ont cherché à mesurer la maîtrise de soi et la capacité d'apprentissage de ces spécimens. Ils ont d'abord entraîné donc ces 6 mollusques adultes à faire un choix, après avoir déterminé un petit peu ce qu'ils préféraient manger. Et donc chaque seiche immergée dans un récipient à 2 compartiments s'est ensuite vue proposer de choisir entre un mollusque qu'elle aimait le moins, par exemple un morceau de crevette royale crue, j'aime pas trop ça, qui est disponible immédiatement, et celui qu'elle préférait. Par exemple, il y a une petite crevette vivante qu'ils aiment bien et qui serait disponible à partir d'un certain délai. Et on s'est rendu compte que les seiches, elles pouvaient attendre de 50 jusqu'à 130 secondes, donc plus de 2 minutes, pour pouvoir satisfaire leur appétit. L'étude, elle a aussi mesuré leur capacité d'apprentissage dans des conditions changeantes, c'est-à-dire que dans son réservoir, chaque seiche a eu le droit entre nager vers une balise grise ou une balise blanche, et une seule des couleurs offrait droit à une récompense sous forme d'une crevette. Et donc, une fois que la seiche a appris à associer une couleur à une récompense, eh bien, les chercheurs ont inversé les règles. Et donc, la sèche devait nager vers l'autre couleur pour avoir la meilleure récompense. Et c'est le docteur Alexandre Achnel qui fait partie du département de psychologie de l'université de Cambridge, qui est l'auteur principal de cette étude, qui explique justement le protocole expérimental qui a été utilisé. Donc son équipe a constaté que les sèches qui apprenaient le plus vite à associer une couleur à une récompense étaient aussi celles qui savaient attendre le plus longtemps pour obtenir leur repas préféré dans l'autre test. Cette capacité donc de maîtrise de soi nécessaire pour réussir ce fameux test du marshmallow répond toujours à une fonction au sein de l'espèce, c'est ce qu'explique l'étude. Et donc les scientifiques expliquent par exemple que certains animaux, comme les corbeaux, sont capables d'attendre pour chasser parce qu'ils doivent d'abord construire un outil. L'étude émet des hypothèses quant à la raison d'une maîtrise une maîtrise de soi chez les sèches, et cette faculté découlerait en fait de leur besoin de se camoufler pour survivre et de leur capacité à attendre le meilleur moment pour chasser. Un moment à haut risque, bien sûr, car elle risque de se faire dévorer par d'autres prédateurs. Et donc, le fait d'attendre le moment optimal pour chasser sans se faire manger serait développer justement cette capacité à la maîtrise de soi, à la patience pour pouvoir parvenir à ses fins. C'est ce que subodore cette étude, bien évidemment. Mais voilà, les sèches savent résister à la tentation, comme les chimpanzés, comme les corbeaux, et peut-être mieux que l'homme, apparemment. Allez savoir, on en apprend toujours des sèches. Ouh, c'était un article qui n'était pas facile à dire. Allez, on écoute un peu de musique pour reprendre nos esprits.
Oh, shit.
Je me suis fait piéger, pardon, par Pop1280 et Ampafetix sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez bien Team tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, on est en train de parler des animaux. J'étais en train, voilà, un petit peu de trier mes différents articles, si bien que j'ai perdu mes deux premières feuilles que j'avais prévu d'évoquer avec vous. Voilà, je voulais parler, pardon, des scorpions. Avec cette question, qu'est-ce que vous seriez prêt à sacrifier pour rester en vie? Chez les animaux, l'automutilation, c'est une stratégie assez courante pour échapper à un prédateur. Le lézard, la salamandre, certaines araignées peuvent se séparer de leur queue ou de quelques pattes, histoire de détourner l'attention de leur assaillant. Et dans le but de pouvoir sauver leur peau. Eh bien, le scorpion, lui, il perd volontairement un bout de sa queue lorsqu'il est attaqué. Sauf que, contrairement à la salamandre ou au lézard, dont la queue repousse une fois coupée, eh bien, le scorpion n'a pas la capacité de régénérer son organe qu'il a perdu. Et cela a de fâcheuses conséquences parce que le scorpion perd non seulement son dard venimeux qui lui sert à neutraliser ses proies, mais aussi son anus qui est situé à l'extrémité de sa queue. Et lorsque l'extrémité cicatrise, eh bien, je vous souhaite un bon appétit parce que ça va pas être génial ce qu'on va raconter, mais bon, on se rend compte que l'anus est bouché parce que ça va cicatriser et les excréments s'accumulent dans le tube digestif. Et du coup, les scorpions ne peuvent pas capturer, ne peuvent capturer que des petites proies, donc c'est quand même pas évident. Et puis, bon, ils sont un petit peu constipés, entre guillemets, bien évidemment. C'est ce qu'explique Camillo Mattoni, qui est l'auteur d'une étude sur ce phénomène, une étude qui est parue dans la revue PLOS ONE. La mort, elle est toutefois très lente parce que les scorpions peuvent survivre pendant près d'un an avant de mourir constipés, car les scorpions excrètent naturellement très peu de déchets. C'est ce qu'il explique. De plus, le scorpion peut évacuer une partie des déchets en procédant à à une automutilation supplémentaire d'une autre partie de sa queue. C'est-à-dire que du coup, il se dit « Bon, allez, je vais encore me sacrifier encore plus pour pouvoir survivre. » Mais cela, évidemment, ça ne peut pas se répéter de façon infinie. Et le sacrifice donc du scorpion finit par lui être fatal. Un sacrifice qui est bien sûr fatal, mais qui n'est pas vain, car ces quelques mois de survie supplémentaire vont lui permettre de s'accoupler et de faire ainsi passer ses gènes à sa descendance, car malgré leur handicap, eh bien, les scorpions mâles sont capables de s'accoupler de manière aussi efficace qu'avant. C'est ce que montre une autre étude parue cette fois dans The American Naturalist. Les chercheurs, ils ont capturé 150 espèces de scorpions qui vivent en Amérique du Sud. Et il y a un protocole expérimental qui est assez particulier. Ils ont donc coupé la queue de la moitié d'entre eux. Chez les mâles, cette mutilation n'a eu aucun effet sur l'efficacité de l'accouplement. C'est ce qu'explique le principal auteur de l'étude, Solimari Garcia Hernandez. Chez la femelle, en revanche, c'est une autre histoire parce que entre l'augmentation de la mortalité et la diminution de la fécondité, eh bien, la femelle produit 35% de progéniture en moins. Donc il y a un impact sur les femelles, mais pas sur les mâles, une différence qui est aussi notée dans l'étude de Camillo Mattoni, hein, l'étude de départ, et qui s'interroge un petit peu sur cette inégalité. Alors, ces deux études, et donc les auteurs de ces deux études, avancent plusieurs hypothèses. D'une part, chez la femelle, cette mutilation peut réduire l'espace disponible pour les embryons en raison d'une accumulation des excréments dans la partie postérieure du corps. De plus, les femelles ont besoin de plus de nourriture que les mâles pour le développement embryonnaire pendant la gestation. Et puis, on l'a vu, les scorpions qui sont amputés peuvent pas se nourrir, ou en tout cas si, ils vont se nourrir, mais de petites proies. Donc c'est pas très rassasiant. Et puis enfin, les femelles ont une durée de vie beaucoup plus longue que les mâles, et donc le coût associé à cette mutilation est donc nettement plus important. D'ailleurs, ce comportement justement d'automutilation, elle est bien plus fréquent chez les mâles que les femelles. D'après son étude, l'étude de Camillo Mattoni, eh bien 88% des scorpions mâles perdent leur queue, alors qu'on n'a que 20% chez les femelles. Donc mourir à petit feu par constipation, C'est sûrement pas agréable, on veut bien le croire, mais du point de vue évolutif, eh bien, l'idée de pouvoir gagner quelques mois de vie et d'être capable de pouvoir se reproduire et donc de transmettre ses gènes, c'est une stratégie évolutive logique qui a été donc révélée chez ces scorpions qui acceptent de mourir constipés pour assurer leur descendance. C'est vrai que vu sous cet angle, on regardera les scorpions sous un autre angle maintenant. Vous voyez, on pensera à lui constipé. Peut-être qu'il nous fera un peu moins peur à les savoir. Autre, toujours dans cette idée de mutilation, il y a un article qui est paru il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines maintenant, où on a vu ce genre de limace de mer. Vous l'avez peut-être vu, cet article, qui montre que décapité, eh bien, cette limace, elle est capable de faire repousser ses organes. C'est Sayaka Mito et sa collègue Yoshi Yusa, l'université de Nara, c'est au Japon, qui ont découvert par hasard deux espèces de limaces de mer qui sont capables de s'auto-régénérer à partir d'une tête décapitée. C'est quand même assez fascinant. En fait, un jour, Sayaka Mito a remarqué avec stupéfaction une tête de limace qui se balade toute seule dans l'aquarium de leur laboratoire. Elle a dit, mais nous pensions qu'en l'absence de cœur et des autres organes importants, eh bien, la limace allait mourir rapidement. Mais en fait, à notre grande surprise, dit-elle, l'animal a fait repousser tout son corps en quelques semaines à peine, y compris le cœur, les reins, les intestins, les organes reproducteurs. C'est assez fascinant. On part de la tête et le reste du corps se repousse. Et au bout de quelques heures, la tête coupée, elle a commencé à se nourrir d'algues. Et après 7 jours, le cœur avait repoussé et en 3 semaines, le corps tout entier était régénéré. L'autre partie du corps abandonné, donc celui qui n'a plus la tête, ça repousse jamais, mais ça peut bouger encore pendant plusieurs jours, voire des mois. C'est quand même assez fascinant. Il n'a plus de tête, mais c'est encore vivant. Ce sont des limaces fascinantes. Cette partie du corps sans tête se rabougrisse progressivement et finisse par se décomposer. C'est ce que décrivent les chercheurs dans cette étude publiée dans la revue Current Biology. Alors, c'est ce qu'on appelle l'autotomie, donc c'est le fait de se séparer volontairement d'une partie de son corps. Donc c'est un petit peu ce qu'on a expliqué avec les scorpions jusqu'à tout à l'heure là. Et c'est un phénomène relativement courant, hein. On a dit les lézards par exemple, c'est assez connu. Mais au niveau des limaces de mer, c'est sans précédent et il est d'ailleurs peu probable que ce comportement soit un moyen d'échapper à un prédateur, car le processus prend plusieurs heures. Alors, les chercheurs y pensent plutôt que son corps détachable, entre guillemets, constitue un moyen radical mais efficace de se débarrasser des parasites qui peuvent altérer leur capacité de reproduction. Et donc, dans un lot de limaces de mer qui ont été capturées à l'état sauvage, eh bien, on a fait un petit peu une étude, une analyse, et on a remarqué que les quelques-unes qui avaient abandonné leur corps étaient en effet parasitées par des petits crustacés de quelques millimètres. Donc, c'est pas nécessairement une automutilation, une autotomie à proprement parler, mais une autolyse, c'est-à-dire qu'en examinant les limaces de près, les deux chercheurs ont remarqué une légère rainure à l'arrière de la tête qui semble un peu fonctionner comme une zone de pré-séparation, un peu, vous savez, comme vous avez des timbres avant, on pouvait avoir des espèces de petits pointillés qui nous permettaient de bien détacher proprement le timbre. Eh bien, c'est à peu près la même idée. Du coup, une espèce de zone qui fait que ça peut se détacher proprement. C'est un petit peu ce qu'ils ont constaté. Et cette zone, eh bien, les limaces peuvent activer cette zone quand l'infection au parasite devient nuisible. Donc, du coup, ils détachent la tête et le reste du corps. Le reste du corps, avec les parasites, s'en va et donc, du coup, ça ne produira rien. La tête reste et va pouvoir régénérer le corps. Alors, question, bien sûr, comment ces limaces de mer, elles ont pu acquérir cette capacité de régénération assez incroyable. Alors, il semble que l'espèce en question soit capable d'incorporer dans son organisme des chloroplastes d'algues dont elle se nourrit. Et ces chloroplastes constituent une sorte de mini-usine énergétique, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer l'énergie lumineuse en matière organique. Donc elles mangent ces algues et elles vont utiliser ces algues pour pouvoir produire de la matière organique. Il y a des études qui ont justement pu prouver que ces chloroplastes qui étaient ingérés par ces limaces, elles sont partiellement digérées, c'est-à-dire que ces algues survivent encore quelques semaines, voire plusieurs mois, dans l'organisme de la limace. Et ce qui fait que ces limaces, elles sont très jolies parce qu'elles sont vertes, étant donné qu'il y a encore ces algues qui sont présentes mais qui ne sont pas détruites. Et les limaces seraient donc capables d'effectuer une sorte de photosynthèse. C'est quand même assez fascinant, parce que la photosynthèse concerne plutôt les végétaux. Et donc, du coup, il y aurait l'idée d'utiliser cette photosynthèse, donc l'idée d'utiliser le processus qui permet de produire de la matière organique à partir de l'énergie lumineuse et de pouvoir essayer de régénérer les organes qui manquent. C'est un processus qui ne réussit pas à tous les coups, nous dit-on, parce qu'il y a quand même un tiers des limaces qui ont perdu leur corps, qui ont pu reformer des organes. Mais il y a des limaces un petit peu plus vieilles qui n'ont pas réussi à se régénérer et qui sont mortes au bout de 10 jours, mais en tout cas, pour d'autres, ça a pu fonctionner. Donc, l'histoire, elle est fascinante au départ. Elle est intéressante parce que, du coup, ça peut... on voit très bien, là encore, ce que l'on peut imaginer comme solution, parce que régénérer des parties du corps uniquement à partir de la tête, si on applique cela à l'homme... Évidemment, ça donne des perspectives assez fascinantes. Alors, évidemment, on est là clairement dans de la science-fiction, mais en tout cas, on va approfondir ces recherches pour essayer de comprendre un petit peu plus le fonctionnement de ce système de régénération. Mais en tout cas, vous pouvez regarder sur Internet les images de cette espèce de limace colorée, assez jolie, et qui, du coup, une espèce de tête de limace qui se balade et après un corps qui se produit, qui pousse. Comme ça, c'est assez fascinant, vous pouvez regarder ça. Les animaux sont fascinants et comme on le dit souvent dans cette émission, on en apprend souvent de leur part. Allez, on continue à écouter un titre et on continue bien sûr à feuilleter l'actualité scientifique sur Graphite. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. Sometimes I am just a child, writing letters to myself, wishing out loud you were dead, and then taking it back. And I used to be ashamed until I learned I love the game, and I slowly move away from everything I knew about me. Gave me this pen, she said it lights up when you press it, and are you still so depressed? And I like it that you need me. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You might even fall in love. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. Pen, she said it lights up when you press it, and are you still so depressed? And I like it that you need me. And you are such a nervous wreck. You can see it in the way you see your body.
then I used to be ashamed until I learned I love the game. And I slowly move away from everything I knew about me. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am.
Ah, alors il y a eu un petit bug, je suis désolé parce que tout s'est effacé d'un coup. Bon, c'est pas grave, je peux même pas vous dire le titre, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai touché à rien, je vous le jure monsieur, je vous le jure monsieur. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ok, bon, alors on va reprendre le cours de cette émission. Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Nous allons parler de cette aventure qui est arrivée à Fridtjof Grimson, qui est tombée sur une nouvelle espèce de mouche fossilisée dans les sédiments d'une carrière désaffectée, une carrière de schiste bitumeux, une carrière classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de sa richesse en fossiles. Et il est tombé sur une espèce de mouche fossilisée, mais c'est pas l'insecte qui l'a intéressé et qui a retenu son attention, mais c'est plutôt le contenu de son estomac, parce qu'il était rempli de pollen, qui donne un aperçu inédit sur les habitudes de butinage des insectes, et également, qui dit pollen, dit information sur la flore, qui occupait la région il y a 47 millions d'années. Dans une étude publiée dans la revue Current Biology, Fridtjof Grimson et ses collègues de l'université de Vienne et du Kansas ont donc trouvé dans la mouche le pollen d'au moins 4 familles de plantes primitives, dont la carmentine, qui est une plante des marais, et le Parthenopsychus, qui est une plante grimpante, qu'on appelle aussi vigne vierge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après les abeilles, eh bien, les mouches sont aujourd'hui le deuxième insecte le plus important dans la pollinisation. Mais à l'époque, elles étaient sans doute le premier contributeur de dissémination du pollen. C'est ce que jugent les chercheurs. Bien qu'elles transportent moins de pollen que les abeilles, les mouches sont plus nombreuses et s'adaptent mieux aux différentes conditions climatiques. De plus, on sait que certaines espèces de mouches migrent sur de longues distances, ce qui contribue à la diversité de la flore. La diversité du pollen que nous avons découverte dans l'estomac de la mouche suggère que ces dernières se nourrissaient et transportaient déjà du pollen il y a 47 millions d'années. Elles ont donc certainement joué un rôle essentiel dans la dispersion du pollen de plusieurs espèces végétales. C'est ce qu'estime Fridtjof Grimson. Alors, grâce à cette découverte, eh bien, les chercheurs ont pu reconstituer l'environnement dans lequel évoluait la mouche à l'époque. Alors, cette région de Messel était dominée jadis par une forêt de type un peu subtropical. Et ces carmentines, justement, cette plante des marais, elle pousse dans des zones humides et les parties peu profondes des lacs. Tout ça indique qu'il existait aussi des clairières avec des zones marécageuses. Une supposition confirmée par la présence dans l'estomac de la mouche de pollen, donc de vigne vierge. C'est ça qui est intéressant. Les premiers insectes sont apparus sur Terre il y a environ 400 millions d'années. Ils ont certainement joué un rôle important dans le développement des plantes à fleurs qui sont apparues ensuite au Jurassique ancien il y a 174 millions d'années. Ces fameuses plantes à fleurs représentent aujourd'hui 90% des espèces végétales sur Terre. Mais en tout cas, voilà. Le fossile d'une mouche daté de 47 millions d'années, comportant du pollen de plusieurs plantes dans son estomac, donne donc des indices sur la végétation et l'environnement qui régnait à l'époque en Allemagne. Et c'est ça qui est intéressant également. C'est une autre façon de pouvoir avoir justement tout accès à un petit peu d'une autre façon, accès à ce qui se passait à l'époque, bien évidemment. Voilà, on va écouter un nouveau titre. J'espère que cette fois, ça va fonctionner sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve juste après pour parler également encore des animaux avec cette question. Mais pourquoi il n'y a pas d'animaux à trois pattes? C'est une bonne question. À tout de suite sur l'antenne. We'll be right back. Ponyhawks avec We Are The Bankers sur l'antenne de Graphite. Bon, ça a fonctionné cette fois-ci, mais je ne sais pas, il y a un petit problème au niveau de la playlist musicale, mais c'est pas grave, on va continuer de feuilleter l'actualité scientifique dans cette émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne et la Somme, et bien sûr graphite.net. Graphite.net qui vous permet de vous tenir informé de l'actualité de Graphite, de pouvoir écouter les émissions de Graphite en direct ou en différé en récupérant les podcasts, et puis bien sûr toute l'actualité de Graphite sur la page Facebook pour suivre bien sûr l'actualité de votre station curieuse préférée bien sûr. Donc, on se posait la question de savoir, pas simple à faire en ce moment d'un point de vue technique, on se posait la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'animaux à trois pattes, et d'où l'expression « franchement, ça ne va pas casser trois pattes à un canard ». Ça risque pas de toute façon, parce qu'un canard, ça n'a que deux pattes, et puis du coup, pourquoi il n'existe pas d'animaux à trois pattes, on pourrait se poser la question. Eh bien, selon Tracy Thompson, chercheur à l'Université de Californie aux États-Unis, on peut se demander « ok, pourquoi ?» et la question que devrait se poser tout bon scientifique, ce serait aussi « pourquoi pas ?» Et c'est ainsi que le scientifique en est venu à se demander pourquoi la nature ne nous a pas offert d'animaux circulant à trois pattes. Alors, si on y regarde un peu plus près, il existe pourtant des exemples d'animaux qui vont recourir à un semblant de troisième patte. Il y a les suricates, par exemple, en position de veille, qui campent sur leurs deux pattes. Sur leurs deux pattes arrière et sur leur queue. Il y a les pivers hein, qui, eux, vont utiliser les plumes de leur queue pour prendre appui sur des troncs d'arbres. Il y a une stratégie donc qui leur permet d'essayer d'économiser de l'énergie. Là où se tenir debout sur deux pattes, ça demande à la fois des muscles forts et des pieds relativement imposants. Il existe même des animaux qui optent pour des déplacements que l'on pourrait un petit peu qualifier de tripodes. Les pattes des insectes, qui comptent 6 pattes au total, se déplacent par exemple par groupe de 3. Il y a le cafard qui avance 2 pattes d'un côté et l'une de l'autre, et ainsi de suite. Les spécialistes parlent de marche tripode en alternance. Il y a d'autres animaux qui utilisent leur queue ou leur bec, par exemple pour le perroquet, en plus de leurs membres pour se déplacer dans les arbres également. Ça aussi, on connaît ce dispositif. Donc pour Tracy Thompson, la raison de l'absence d'animaux présentant trois véritables pattes serait plutôt à chercher très loin dans le passé, au tout début de l'évolution de la vie. Il y a cette espèce de plan de symétrie bilatérale que l'on observe aujourd'hui, qui a dû être inscrite un petit peu cette symétrie dans notre ADN avant même que n'apparaissent les pattes, les ailes et ainsi de suite, les nageoires par exemple. Et peut-être que cela a perduré parce que l'évolution a montré que les solutions à membres pairs se sont avérées suffisamment performantes pour survivre et donc prospérer et donc évoluer, alors que les solutions à membres impairs ont eu plus de difficultés. Donc 3, difficile. 5, par contre, ça existe un petit peu plus. Déjà, on a 5 doigts à chacune de nos mains, alors ça pourrait là aussi avoir un lien très loin dans l'histoire de la vie qui pourrait remonter à 350 millions d'années. Il y a les étoiles de mer ou les oursins qui ont, eux, une symétrie à 5 branches. Enfin, une symétrie, on n'est même pas trop dans une notion de symétrie, mais en tout cas, il y en a bien 5. Mais 3, non. Donc on n'a pas la raison. On a quelques idées ou quelques exemples qui montrent qu'il y a pu y avoir à un moment dans l'évolution cette lignée d'espèces à trois pattes, mais finalement c'est quelque chose qui n'a pas su évoluer, su s'adapter pour pouvoir prospérer, et donc c'est plutôt le côté bilatéral de pattes, de jambes, de nageoires, de ailes et ainsi de suite, ou en tout cas un nombre pair qui semble être un petit peu plus stable dans l'évolution, mais voilà, on se pose des questions parfois chez les chercheurs, et c'était toujours dans cette rubrique des animaux. Allez, on va continuer à écouter encore un autre titre pour voir si ça fonctionne toujours, et on se retrouve juste après, toujours bien sûr sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Yeah! The Crayons avec We're Ready When You Are sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On va terminer cette émission tant bien que faire se peut avec deux dernières petites informations pour cette émission consacrée aux animaux. Première information, cet article dont le titre est assez éloquent, « La frustration sexuelle tue les mâles drosophiles ». Aïe, alors du coup, on est obligé de cliquer dessus pour lire l'article. Et on se demande si, entre vivre et se reproduire, eh bien, il faut souvent choisir. Il y a de nombreux éléments scientifiques qui expliquent qu'engager de l'énergie dans la reproduction réduit les espérances de vie. Mais chez les drosophiles, on pourrait presque constater l'inverse. Les drosophiles, c'est un genre de mouche, des mouches qu'on utilise beaucoup en génétique parce qu'elles sont assez intéressantes pour expliquer notamment aux étudiants le principe de l'hérédité génétique. C'est ça qui est intéressant chez ces mouches. Et on constate que pour ces mouches, le manque de sexe peut tuer, comme le montre une étude paru dans la grande revue Science. Donc c'est quand même sérieux, on se dit, mais c'est quand même pas n'importe quoi. La drosophile, comme je vous l'ai dit, constitue donc l'un des plus célèbres modèles animaux utilisés par la recherche scientifique, parce qu'on en apprend davantage sur le système nerveux, sur les rythmes biologiques, sur les apprentissages, même sur les comportements addictifs. Il y a une étude qui est parue il y a une dizaine d'années qui établissait même que lorsque ces insectes étaient privés de sexe, eh bien, ils étaient enclins à noyer leur chagrin dans l'alcool. La faute à une molécule qu'on a dans le cerveau qui s'appelle le neuropeptide F, une molécule capable, impliquée notamment dans le circuit de la récompense. Plus récemment, les chercheurs ont eu l'idée de recourir à ces mouches pour répondre à une autre question. De quelle façon l'environnement sensoriel peut-il modifier les processus de vieillissement ? C'est un peu complexe en apparence et pourtant ils ont obtenu des résultats assez concluants. Lorsque les drosophiles peuvent sentir l'odeur de la nourriture sans pouvoir y goûter, eh bien cela déclenche des mécanismes physiologiques forts. Face à cette abondance alimentaire inaccessible, eh bien les mouches entrent en restriction calorique, ce qui va leur permettre de vivre plus longtemps. C'est une manière de prouver que ce n'est pas l'apport alimentaire en lui-même qui modifie l'espérance de vie, mais l'interprétation que l'insecte se fait de son environnement à partir des informations sensorielles qu'il arrive à capter. Scott Pletcher de l'Université du Michigan, avec ses collègues, a entrepris une démarche analogue, mais cette fois à partir des odeurs liées à la sexualité. Et dans ce cas, eh bien, la longévité en prend un coup. Il y a des drosophiles mâles qui ont été mis en contact d'autres mâles génétiquement modifiés pour sécréter un peu des phéromones caractéristiques des femelles à la recherche d'un partenaire. Et dans ce cas de figure, bien que les mâles soient un petit peu alléchés par l'idée, eh bien, la copulation, elle est impossible. Bah oui, parce que ce sont d'autres mâles qu'on met avec eux, je le rappelle. Et puis, du coup, une certaine frustration qui se met en place. Les scientifiques ont examiner d'un peu plus près la physiologie. Et donc, l'exposition à ces molécules odorantes fait monter en flèche la quantité de cette molécule qu'on évoquait tout à l'heure, le neuropeptide F, qui est impliqué dans le circuit de la récompense. En découle une espèce de modification de l'activité de plusieurs gènes, la détection des odeurs, le métabolisme lipidique, la réponse immunitaire, le stress. Et certains de ces mâles, on les a mis en contact avec des femelles, des vraies cette fois, et ils ont pu, je dirais, un petit peu soulager leur tension. Et donc, le taux de ce neuropeptide a pu chuter, et puis ils se portaient bien, ils étaient contents. Les autres, ils sont un peu frustrés, et ce sont des éternels frustrés. Et on s'est rendu compte que ceux qui étaient frustrés sexuellement ont commencé à voir leur santé décliner, et ils sont morts de façon prématurée. En moyenne, leur vie a été raccourcie de 40%. C'est un résultat auquel les scientifiques ne s'attendaient absolument pas. On se rend compte que cette frustration sexuelle tue justement les mâles drosophiles. D'ordinaire, les études tendent à montrer que les animaux qui se reproduisent vivent moins longtemps que ceux qui ne copulent pas, dans l'idée de pouvoir consacrer ou sacrifier de l'énergie à la reproduction au lieu de la vie. Et là, on est un petit peu dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reproduction. Eh bien, on meurt quand même. C'est quelque chose d'assez... assez inédit et qui remet peut-être en cause certains dogmes qu'on avait un petit peu établis. Pas tout à fait, nous dit-on, parce que une drosophile qui s'accouple connaît une vie plus courte de 10 à 15% par rapport à une autre qui ne fait pas de rencontre. Donc, il n'y a pas quelque chose vraiment de lié aux phéromones. Mais voilà, c'est assez intéressant parce que c'est un sujet qu'on n'avait pas du tout évoqué et c'est des résultats qu'on n'avait pas du tout anticipés qui permettront peut-être des recherches futures pour essayer de mieux comprendre alors comment la longévité, je vais y arriver, peut avoir un lien avec la présence de vrais drosophiles femelles. Voilà, bah écoutez, la frustration sexuelle tue les drosophiles mâles. J'espère pas les hommes, en tout cas, parce que sinon, s'il y a une comparaison, une analogie qu'on met en place, ça serait quand même pas génial. C'est la fin de cette émission Biotine. Désolé pour ces petits problèmes techniques. J'espère qu'ils seront résolus assez rapidement, en tout cas la semaine prochaine. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve donc samedi prochain. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble de nos émissions, à la fois sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Tout de suite, la suite des programmes de Graphite. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.